Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au théâtre de l'Alliance française pour Un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité littéraire avec les androïdes de la critique, Olivia de Lamberterie, duel Patricia Martin des Petits Matins, du week-end de France Inter avec Jean-Claude Raspienjas de la Croix et avec Arnaud Vivian de Transfuge, de Regard et encore pour quelque temps de la revue Charles. On parle ce soir des livres de Leïla Slimani, Yegor Gran, Blandine de Cône, Gary Stengart et Yann McEwan dans le courrier de la semaine à propos du consentement de Vanessa Springora chez Grasset. Lise Massé de Bourg-les-Valence nous dit « Le consentement est un livre captivant. L'écriture est belle, le tempo juste. Avec Vanessa Springora, on a un modèle de résilience et je placerai ce livre à côté de mon King Kong Theory de Virginie Despentes. » Pour Jérôme Fabre, au contraire, le livre de Springora est mal écrit. Je suis surpris des louanges pour un livre racoleur et opportuniste. Mais je suppose, nous dit Jérôme Fabre, que c'est un livre que l'on n'a pas le droit de critiquer. Camille Pommier, qui a 27 ans, qui habite Paris, nous dit « J'ai été interloqué par les propos d'Arnaud, qui sous-entend que le livre est le fruit d'une époque qui préfère la sécurité à la liberté. Quelle est la liberté d'une jeune fille de 13 ans face à un homme de 50 ans? Heureusement que notre époque sécuritaire protège l'intégrité des enfants face à la liberté des adultes. » Sabine s'étonne pour sa part que personne ne relève l'inaction de la mère de Vanessa Springora, qui savait tout de la relation de sa fille à cet homme. En 1981, ajoute Sabine, j'avais 13 ans. Lorsque j'ai commencé à flirter avec un homme de 31 ans, lorsque ma mère l'a appris, elle a contacté l'homme et l'a menacé de le dénoncer pour détournement de mineur. L'homme en question a immédiatement cessé tout contact avec moi. Lucille Rocha de Paris a lu La vie de Gérard Fulmar de Jean Echenoz. Il y a des choses vraiment chouettes. Le style est aussi léger et réjouissant que Gérard Fulmar est lourd et pathétique. On retrouve un peu l'ambiance de ses films des années 70 comme Adieu Poulet. Le vrai problème, c'est que dans tous les derniers romans de chez Minuit, La clé USB de Jean-Philippe Toussaint, Propriété privée de Julia Deck et donc le dernier Echenoz, on baigne dans la littérature de genre. Mais pourriez-vous m'expliquer pourquoi ces écrivains pensent pouvoir s'affranchir des codes élémentaires qu'impose ce genre? Pour Carmen Sorel de Villers-sur-Mer, Echenoz est drôle. Il ne se prend pas au sérieux et transforme l'exercice de style en déconnade jouissive. Vie de Gérard Fulmar est une bulle littéraire passagère qui laisse sur sa trace une agréable ivresse. Sébastien Berthaud, peiné d'entendre Nelly tenir de tels propos sur le livre de Pierre Lemaître, Miroir de nos peines. Vous dites ne pas aimer qu'on vous raconte des histoires avec des personnages qu'on vous prenne pour une enfant. Mais n'est-ce pas la base de la littérature? C'est à cause de ce genre de posture que pullulent les autofictions. Non, nous voulons des romans avec des personnages, des histoires, du suspense, de l'émotion. Je ne sais pas si je vous plains ou si je vous en veux, les deux sûrement. Émilie Duval reproche au Masque et la Plume de faire l'éloge du bouquin de Constance Debray à la quasi-unanimité. Jean-Claude n'était pas dans l'unanimité. Quel malaise, nous dit Émilie Duval. Le problème n'est pas, comme elle le dit, qu'elle soit lesbienne et qu'elle n'ait plus d'argent. Le problème, c'est que son personnage, on n'y croit pas, ça pue la posture. Et puis, à travers les lignes rébarbatives, on devine une victime bien réelle, son fils. Enfin, Grégoire Zimmermann, qui nous écoute depuis Montréal, a été frappé par notre méconnaissance et puritanisme lorsqu'il a fallu aborder la question du LSD dans le dernier ouvrage de Tissy Boll. Aujourd'hui, la distinction entre substance légale et illégale est non fondée scientifiquement. L'alcool est de loin la substance qui fait le plus de dégâts au sujet du LSD et de son histoire. Il faut voir ou revoir l'excellent documentaire suisse de Martin Witz qui détaille les perspectives extraordinaires que peuvent nous offrir les substances psychédéliques. Si avec ça, on ne pousse pas les gens à se shooter, je ne sais pas à quoi sert cette émission. Et on commence avec Leïla Slimani. Depuis Chanson douce, prix Goncourt 2016, qui faisait suite à Dans le jardin de l'ogre. Elle n'avait pas publié de roman, mais juste ce livre, d'ailleurs très, très fort, sur la vie sexuelle au Maroc, sexe et mensonges. Et donc, voici son troisième roman, Le pays des autres, sous-titré La guerre, la guerre, la guerre, chez Gallimard, qui inaugure une trilogie consacrée à son pays natal, le Maroc. Après la libération, un couple mixte, marié à l'église, s'installe près de Meknès, ville de garnison et de colons. Elle, Mathilde, est alsacienne. Lui, Amine, un Marocain qui a combattu dans l'armée française. Et ce sont en fait les vrais grands-parents, n'est-ce pas, Olivia, de Leïla Slimani. Ils ont bientôt deux enfants, une fille, Aïcha, et un garçon, Selim. Amine est très à cheval sur les traditions religieuses et patriarcales. Il tente d'exploiter un domaine très rocailleux, tandis que Mathilde souffre d'être une étrangère, une paria, stigmatisée parce qu'elle n'est pas musulmane. Elle souffre aussi, bien sûr, d'être isolée dans cette ferme. Ce premier volume de la saga couvre donc 10 années, jusqu'à l'indépendance en 1956 de l'ancien protectorat français. On peut dire d'ores et déjà que le deuxième couvrira les années 70-80 et le troisième la décennie 2005-2015, celle des grandes migrations, de la mondialisation et de la montée de l'islamisme. Voilà, donc Leïla Slimani est de retour. Qu'en pensez-vous, Arnaud ?
J'étais surpris, en fait.
Pourquoi surpris ?
Surpris, enfin, en même temps pas trop, mais aujourd'hui on sait, un écrivain sérieux doit écrire des séries. On le voit, on l'a vu avec Marc Duguin, Virginie Despentes, chacun, il va évidemment Pierre Lemaître, chacun à sa façon d'ailleurs, il va dans ce qu'on appelle les romans fleuves, les cycles romanesques, les sagas. Là c'est une saga familiale finalement. J'ai été surpris parce que moi j'ai adoré les deux premiers livres de Leïla Slimani. Tout le monde me dit « Oh, c'est du sous-Simenon ». Je trouve absolument pas. Je trouvais qu'il y avait un talent d'observation de la société moderne.
Qui étaient d'ailleurs des romans brefs et
très brefs,
secs, hein.
Oui.
Le contraire de la saga.
Là, elle a complètement changé de style. Alors évidemment, il y a une véritable fluidité de l'écriture. Et il le faut absolument parce que vous faites un roman fleuve qui, en plus, avec une écriture qui serait stagnante, ça ne va pas fonctionner vraiment longtemps. Il y a vraiment, voilà, une limpidité de la langue. Le problème, c'est que c'est quand même, elle utilise c'est écrit au passé, ce qui est d'ailleurs, voilà, par exemple, Vernon Subutex, c'est écrit au présent. Elena Ferrante, elle mélange le passé et le présent. Elle n'est pas cantonnée uniquement dans le passé simple et l'imparfait, qui là, me semble utile.
Oui, mais enfin, Virginie Despentes ne parle pas de l'époque qui suit la libération, hein. Le passé est justifié dans le livre de Slimani.
Pas plus que de Elena Ferrante, elle racontait les années 50, 60, 70, et donc elle écrivait, il y avait un mélange de présent et en général, et Vernon Subutex de Virginie Despentes est écrit au présent. On considère aujourd'hui, à tort ou à raison, vous savez qu'on avait disparaître le passé simple des oui-oui, on a réécrit les
c'est
oui-oui.
C'est pas vrai, tu nous annonces ça comme ça
cinq. Oui, mais ça vous saviez pas, le Club des Cinq a été entièrement réécrit.
Vous saviez ça?
Et vous savez, 1984 d'Orwell.
C'est brutal comme nouvelle, fais attention quand tu nous dis
en français, alors que le livre était écrit au passé. On considère aujourd'hui que le présent va plus vite. Et dans ce cas de roman fleuve, de trilogie, c'est important, cette rapidité de l'écriture. Il faut que ça soit visuel. On voit bien l'enjeu, il est pré-cinématographique. Car évidemment, là où vous gagnez la timbale, c'est lorsque vous êtes adapté ensuite en série télévisée, comme l'a été Léna Ferrante, comme l'a été Marc Duguin, comme l'a été Virginie Despentes.
Mais comme l'a été Slimani avec Chanson douce il y a quelques mois.
On voit bien cette tendance. Donc elle se lance dans ce projet. Voilà. Donc
Il y a beaucoup de passé simple. Tu parles d'imparfait, là. Il y a beaucoup de passé simple.
Oui, de passé simple, avec une espèce, en fuyant comme la peste tout ce qui pourrait renvoyer du coup un subjonctif, des fois c'est un petit peu tordu, hein. Il y a une fête de voilà un truc de la langue est, moi je trouve, est très surannée. Donc ça m'a étonné parce qu'il y avait une modernité chez Leïla Slimani. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un peu ce que ça raconte. Il y a une métaphore qui court durant tout le récit, qui est celle de la greffe. Hein, Amine et Mathilde ont eu une enfant, Aïcha, et au moment de la naissance, le père greffe une branche de citronnier sur un oranger. Et qu'est-ce qu'on découvre ?
Bref, qui prend.
On est tout dernière page du livre, au moment justement où on commence à éclater la guerre d'indépendance, c'est que Amine découvre que les fruits de cet arbre, qu'ils appellent le citron, ils ont fait un mot valise entre citronnier et oranger, ces fruits sont immangeables. Et il dit, il pense un petit peu que finalement, l'humanité et la biologie, c'est la même chose. Alors, c'est un peu étonnant, venant de Leïla Slimani, c'est moi, je n'ai pas compris ce qu'elle voulait nous expliquer. Il y a une phrase d'Edouard Glissant en exergue qui parle du métissage comme d'une damnation. Leïla Slimani est franco-marocaine, elle s'est toujours présentée comme ça, comme franco-marocaine, c'est-à-dire comme précisément une métisse. Et là, en lisant ce livre, moi, j'essaye de comprendre ce qu'elle veut me raconter comme histoire. J'ai l'impression que c'est l'histoire d'une greffe qui ne prend pas.
Alors,
il va falloir absolument que je lise les autres
volumes. D'abord, on va laisser parler les autres. Oui. Juste une question, tu fais une réponse rapide. T'as aimé ou t'as pas aimé?
À un moment, si vous voulez, le jugement de goût, est-ce que j'ai aimé? Je l'ai lu rapidement, ça ne m'a pas déplu, mais simplement, j'essaye de comprendre, au-delà de savoir si j'ai aimé ou pas, j'essaye de comprendre ce que ça raconte.
D'accord. Olivia.
Oui, je ne comprends pas très bien tes préventions. Elle fait des choix de temporalité qui sont tout à fait respectables. Et elle fait un choix qui, je trouve, est très intéressant et au contraire assez moderne aujourd'hui. C'est que, précisément, elle ne choisit pas le genre de la série, mais celui de la saga familiale, qu'elle va sérieusement dépoussiérer. Parce que je trouve que c'est un livre qui est d'abord captivant, d'une fluidité tout à fait remarquable, très harmonieux, et dans lequel elle évite tous les pièges de la saga familiale aujourd'hui, qui peuvent être une certaine manière de lier la grande histoire et la petite, des rebondissements à outrance.
C'est un peu le cas.
Eh bien non, je trouve que justement, ce qui est extraordinaire dans ce livre, c'est un livre de conteuse fondé sur des personnages extraordinaires. C'est un livre qui pose la question, si tu ne l'as pas compris, comment est-ce que tu peux trouver ta place pour une femme exilée qui est une Alsacienne à 100%, qui se retrouve mariée à un homme musulman.
Pourquoi une Alsacienne à 100%?
Parce qu'elle est très très attachée
très alsacienne.
À ses traditions, à son enfance.
Qu'elle préfère le chou au couscous.
Voilà, merci. C'est une Alsacienne qui est très attachée à sa culture et qui débarque au fin fond du Maroc dans une ferme isolée.
Et qui parle l'arabe avec l'accent alsacien, ça, ce qui m'a toujours... Là, le détail m'a fait rêver, ça. On a envie de l'entendre. On attend quand même d'avoir la série sur France 2 pour entendre l'arabe avec l'accent alsacien.
Mais justement, moi, je trouve que tu n'as pas besoin d'attendre la série parce que en lisant le livre, tu l'entends, cet accent. Tu l'entends, tu y es, tu le vois. Et la problématique, elle est passionnante. C'est comment cette femme va pouvoir trouver sa liberté sans trop heurter son mari et la culture de son mari.
Et la religion de son mari.
Et comment ce mari, d'ailleurs, va pouvoir accepter la liberté de cette femme qu'il juge très souvent absolument incompatible avec tout ce auquel il croit. Donc je trouve déjà que la problématique est passionnante et elle est faite avec une sorte de maîtrise romanesque, mais absolument incroyable. Elle a le sens de la scène, mais c'est incroyable. Je parlais justement de l'Alsace à propos de Noël. Parce que c'est vraiment le sommet de son année et peut-être de la culture alsacienne. Et la manière dont son mari, ce Marocain musulman, bien avant la mondialisation, à une époque où Noël...
Il s'est quand même marié à l'église.
Il s'est marié à l'église. Et à l'époque où Noël ne veut rien dire pour cet homme, va aller voler un cyprès dans le jardin de sa voisine pour le transformer en sapin de Noël. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de sapin. Mais cette scène est, je trouve, d'une beauté. Parce que ce qui relie ce couple, c'est vraiment l'amour, la sensualité. C'est un livre très très sensuel. Moi, je trouve que elle démontre qu'elle est une conteuse, ce qu'elle n'avait pas fait auparavant.
Non, mais c'est vrai que c'est un livre très différent des deux précédents.
Mais c'est ça qui est extraordinaire.
Patricia.
Tu as raison de dire que, Olivia, que, par exemple, elle a le sens des scènes. Quand elle arrive chez sa belle-mère, et tout est nouveau, évidemment, elle voit toutes ces femmes, il y a beaucoup de bruit dans les rues, il y a un monde fou, etc. Ça ressemble en rien, pour bien connaître Mulhouse, puisque j'y ai un peu vécu. Ça n'a évidemment rien à voir, même avec la plus grande rue de Mulhouse, la rue du Sauvage, qui, pendant la guerre, soit dit en passant, avait été baptisée la rue Adolf Hitler. Je trouve que les Allemands avaient le sens de de l'humour. C'est un livre absolument... Moi, j'ai trouvé que c'était hypnotique. D'ailleurs, ils sont mariés à l'église, mais pour le Maroc, ça n'a aucune valeur.
Oui.
Donc d'ailleurs, c'est là l'inquiétude du mari qui lui dit, mais puisqu'elle part à un moment donné, son père meurt et elle repart à Mulhouse, et elle a bien failli ne pas revenir d'ailleurs, parce qu'on voit bien, c'est un arrachement sans cesse, c'est pas du tout une vision simpliste, manichéenne des choses. Mais moi, je trouve que c'est absolument, quand tu disais captivant tout à l'heure, moi je dirais hypnotique. À la première ligne, on est en immersion dans un univers, il y a quelque chose de visuel, de charnel. Mathilde, moi j'ai l'impression que c'est ma sœur. Mouilala, sa belle-mère, c'est une amie. Georges, le père alsacien, mais c'est quelqu'un que je connais forcément. Et les enfants aussi, la façon dont elle parle des enfants. Cet enfant Aïcha qui part, quand elle va à l'école, elle a 5-6 ans, elle a 6 ans à peu près. On est dans la tête de cette petite fille. C'est à la fois quelque chose de très frontal, parce qu'effectivement, c'est un grand roman sur, on peut dire, sur la décolonisation, sur l'incompréhension, l'intolérance, etc. Mais en même temps, c'est extrêmement doux. Elle est à la fois déterminée dans son écriture, mais extrêmement nuancée dans ses points de vue.
Je pense que ça va se durcir avec avec les années, les décennies et l'approche de l'époque contemporaine.
Et on a d'abord là des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des enfants.
Jean-Claude ?
Moi, je pense qu'on peut louer Leïla Slimani d'avoir l'ambition de cette fresque romanesque sur la colonisation et puis sur une vraie saga romanesque et familiale et sur l'oppression. Vous en parlez en termes lumineux. Moi, j'ai lu ce livre comme quelque chose d'extrêmement sombre. C'est-à-dire qu'en effet, aucune greffe ne prend à aucun moment.
La greffe, cette greffe-là.
Excuse-moi, mais un des derniers chapitres, elle se fait tabasser par son mari. Alors peut-être qu'en effet, le mariage prend en effet, puisque se fait tabasser. Mais non, la greffe ne prend pas vraiment. Moi, je trouve que c'est un livre sur l'oppression conjugale, l'oppression de culture, l'oppression de religion. Le roman d'une déracinée et une transplantation qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas. Alors moi, je ne fais pas de procès à Leïla Slimani, elle a parfaitement le droit de raconter l'histoire de ses grands-parents, et si c'est passé comme ça, tant mieux si elle le raconte comme ça. Je ne lui fais pas non plus le soupçon de vouloir écrire pour que ça devienne une série. Ça devient une sorte de lieu commun chez nous, les critiques, de penser ce genre de choses. Elle a le droit.
De toutes les manières, ce n'est pas une série, encore une fois, c'est une trilogie.
C'est une saga.
Ça n'a rien à voir.
Mais moi, je la
soupçonne. C'est une fresque romanesque, c'est pas une série.
Je ne soupçonne pas d'écrire pour une série. Je pense que vraiment, elle s'engage résolument dans un projet qui est extrêmement personnel. Une dernière chose, je trouve qu'elle renvoie à son pays d'origine un reflet qui n'est pas extraordinairement reluisant sur son passé et sur l'ordre moral, qui est quand même très corseté et qui pose énormément de problèmes.
En Alsace, tu verras, dans ces années-là, dans les années 50. Hein. Moi, je suis allée
Et par ailleurs, moi, je rejoins un petit peu Arnaud. C'est vrai que c'est un projet totalement différent. Et je me suis dit, elle se lance dans une grande saga populaire. Mais du coup, son style en est affadi. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé que c'était affadi. Je n'ai pas trouvé l'enthousiasme qu'il y a trouvé. À plein de moments, j'ai trouvé en effet que c'était une écriture fade. J'ai trouvé qu'il y avait des scènes assez convenues, qu'il y avait parfois des dialogues sans relief. Mais malgré tout, à l'arrivée, ça se tient, c'est attachant, et il faut revenir à l'appui de ma démonstration sur le sous-titre qui est la guerre répétée et trois fois. Donc c'est une trilogie sur la guerre, et quelles que soient ses formes.
Et puis la question c'est aussi, est-ce qu'on a envie déjà d'avoir le deuxième ? Oui, on a envie de suivre l'évolution propre des scènes.
Moi je ne trouve pas justement qu'il y a des scènes convenues, je ne sais pas auxquelles tu penses.
C'est pas des gens convenus.
Ouais.
L'amour est nuancé, évidemment.
J'allais te le dire.
Non, mais évidemment,
elle a raison.
Je ne peux pas laisser...
L'amour est nuancé.
Évidemment, elle se fait tabasser, et évidemment...
Excuse-moi, mais elle se fait tabasser du début à la fin.
Non, c'est pas vrai du tout.
Écoutez, les auditeurs en jugeront. On peut leur donner la liste des pages où il y en a question. Ne venez pas nier ce qu'elle décrit sous prétexte qu'il ne faudrait pas dire. Elle le raconte, elle le dit, ça fait partie de son histoire familiale.
C'est ça qui est beau et qui est intéressant.
Je sais pas si c'est beau. Enfin, moi, je l'ai pas
vécu. Et à certains moments, lui comprend un certain nombre.
Alors, après l'avoir tabassé, il comprend, mais c'est magnifique, ça. Ça, je dois dire.
Tu simplifies.
Mais non, je simplifie pas. C'est ça. Non.
Le pays des autres, c'est donc sorti cette semaine et avec, à mon avis, promis un très grand succès, Le pays des autres de Leïla Slimani. Chez Gallimard, Une machine comme moi, le nouveau roman, toujours chez Gallimard, de l'anglais Ian McEwan, vous savez, l'auteur d'Expiation, de la plage de Chesil, et de Dans une coque de noix, dont je vous rappelle, le narrateur était un fœtus, je ne sais pas si vous l'aviez lu. Là, c'est traduit donc par France Camus Pichon. On est à Londres en 1982, mais dans une Angleterre, sur fond de guerre des Malouines, où le Premier ministre est assassiné, où les Beatles et Alan Turing sont toujours en vie. Et là, Charlie, 32 ans, fait l'acquisition dispendieuse d'un androïde, précisément mis au point par Alan Turing, et baptisé Adam. Adam est, je cite, fort comme un cheval de trait, donc il doit être très très fort, beau comme un docker du Bosphore, ça j'ai eu plus de mal à imaginer, et il est très intelligent, puisqu'il lit tout Shakespeare, il écrit des poèmes.
Il n'a pas d'Ève.
Il tombe fou amoureux de Miranda, la voisine et compagne de Charlie. Et même, il couche avec elle. En somme, il forme vite un trio à la Jules et Jim. Et Charlie est donc fait cocu par un artefact. C'est compliqué à comprendre. Seulement, voilà, Adam ne supporte pas le mensonge. C'est donc une uchronie très british. Pour moi, un soupçon trop long, 400 pages, mais voilà. Jean-Claude ?
Ah ben, c'est une uchronie d'anticipation. C'est-à-dire qu'on est en 82, alors c'est très étonnant, parce qu'il y a des voitures...
Ça, je l'ai dit, ça. Hein.
Oui, mais il y a des voitures électriques, il y a Internet, Georges Marchais, président de la République française.
Oui, ouais, quand même, ça c'est vraiment une uchronie.
Et une uchronie d'anticipation, c'est ça qui est fort. Non, c'est le roman postmoderne par excellence, je dirais personnellement... En relation avec mes références, que c'est un roman élulien. Jacques Ellul, je vous rappelle, était un sociologue qui avait écrit...
Ça, j'avais jamais encore entendu ça, roman élulien.
Oui, c'est un roman élulien. Je vais
tu vas donner envie de lire, là.
Oui, mais je vais expliquer pourquoi. Jacques Ellul, en 1954, écrit La technique ou l'enjeu du siècle. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quand l'homme invente une technique, il croit toujours en être le maître et il finit toujours par cavaler derrière. C'est exactement le propos de ce livre-là. Donc, c'est un roman élulien.
Il a pris de l'autorité avec le temps.
À part ça, c'est remarqué. Pas du tout ce que raconte le livre.
Moi, je n'ai rien compris. Non. Je n'ai rien compris à ce qu'il
dit. Ah, mais je vais recommencer.
Non. Le temps est compté. Jean-Claude.
Donc, c'est le roman du fantasme des objets intelligents, des voitures autonomes, du contrôle du monde qui est confié à des robots dotés de sensibilité, capables même de se suicider, quand même.
Oui, mais c'est pas le fond de l'histoire.
Et de prendre le pouvoir.
Là, tu prends de la hauteur, mais c'est une histoire.
Oh, s'il est interdit de prendre de la hauteur dans cette émission.
On nous l'a changé. Hein.
Il est arrogant ce soir.
Il est un peu arrogant, t'as remarqué. Hein. Alors, il est un peu élulien, je trouve.
Oh, mais vous avez tort de rire. Élulien, c'est le penseur le plus contemporain d'aujourd'hui. Bref.
Est-ce que tu as aimé ce roman?
Oui, beaucoup, beaucoup. Oui, mais je trouve que c'est un roman extrêmement audacieux, ambitieux. En plus, dans la construction, c'est formidable. C'est un roman en forme de poupée russe. C'est-à-dire que sans arrêt, il y a des sous-intrigues à l'intérieur. Ce qui arrive, le passé trouble de Miranda, rentre à l'intérieur de ce trio. Et quand même, ce personnage de robot est un vrai personnage, quoi. Il existe réellement, il est troublant, il est désarçonnant, il est imprévisible, il est dangereux.
Je trouve pas le roman un peu long, un peu démonstratif, non?
Non. Je t'ai pas, il a une hauteur à laquelle j'essaie de me situer, donc j'étais bien, quoi.
Merci Jean-Claude. Patricia.
Et quand je dis qu'Adam n'a pas d'Ève, c'est parce que Miranda, elle trouve que son odeur est flippante. Donc je vois pas comment on peut s'éclater avec un homme ou avec un robot.
Un androïde.
Si on trouve que son odeur est flippante. Mais enfin bon, ça c'est une parenthèse. Je trouve aussi que c'est un petit peu long. De toute façon, c'est évident qu'il adore la science. Hein. Il met toujours beaucoup de science dans ses livres, même s'il parle de terrorisme ou de fondamentalisme religieux. C'est assez dérangeant parce qu'on ne sait pas bien ce qu'il a voulu faire. C'est-à-dire, est-ce que c'est un double de l'auteur? Est-ce que c'est une réparation aussi vis-à-vis d'Alan Turing, dont on se dit que c'est vraiment le héros de McEwan, qui a quand même été un génie persécuté, castré. Et
qui a permis la victoire des Anglais, des Alliés durant la Seconde Guerre mondiale.
Mais à qui on a reproché.
En cassant le code des Allemands.
Mais à qui on a reproché et qui s'est suicidé.
À cause de son homosexualité.
Oui.
Alors évidemment, cet Adam, il est assez marrant parce qu'il est imprévisible et il s'échappe. Alors que quand on est Prométhée ou Dieu, on veut évidemment faire l'homme ou la femme à son image. Donc on veut pouvoir se le mettre en boîte. Là, il correspond pas tout à fait à ces critères-là. Moi, ce qui m'a vraiment amusé et marqué, c'est à partir du moment où Charlie lui file ses vêtements. Parce que quand il commence à l'habiller avec ses propres fringues, là, on se dit, il est en train de l'humaniser. Et d'un autre côté, c'est pas l'habit qui fait le moine non plus, puisque cet Adam va rester tel qu'il est. C'est-à-dire, est-ce qu'il a un libre arbitre? Est-ce que donc il a le choix de quelque chose? Est-ce qu'il a une morale? Est-ce qu'il a des sentiments? En fait, ça ne peut que clocher parce que c'est un être qui est censé être parfait, mais qui est dans un monde qui est tout à fait imparfait. Alors, qu'est-ce qui peut devenir là-dedans? À quel droit peut-il prétendre? Quelles responsabilités sont les siennes? Enfin, ça pose plein de questions qui sont toutes intéressantes, mais au bout d'un moment, j'ai trouvé que c'était
quand
un
même,
petit peu systématique et je dois dire que ça ne m'a pas tenue en haleine du début à la fin.
Olivia.
Mais oui, parce que c'est très amusant à lire.
Oui, c'est amusant.
Au bout d'un moment, tous ces mots savants que mon voisin a employés, cette uchronie, etc.
C'est une uchronie élulienne.
Uchronie élulienne, voilà.
Si on nous prend en cours de route, on nous prend pour des fous aussi. Oui. Hein.
Parce que c'est très déstabilisant, puisqu'il réécrit le passé. Donc, il y a cette histoire assez drôle avec les Beatles où tout d'un coup il parle d'un album des Beatles qui s'appelle Love and Lemons.
Génie absolu.
Et en disant que c'est l'album de la réconciliation, mais que les critiques ont trouvé que l'album était très pompeux. Et là, je dois dire, j'ai interrompu ma lecture pour aller regarder sur Internet si Love and Lemons existait vraiment. En fait, c'est un paquet de céréales, hein, d'ailleurs.
C'est surtout une comptine enfantine anglaise très connue.
Alors là, je suis tombée sur un muesli du matin. Tout ça est très amusant. Moi, je suis un peu technophobe, comme le père du héros, qui pense qu'avec les machines, la seule solution, c'est de taper dessus et que ça répare tout. Moi, c'est à peu près mon cas avec les machines.
Ce que tu as fait avec le livre, non ?
Un petit peu. Je dis encore transistor, par exemple. C'est vous dire que je ne suis pas tout à fait équipée pour ce genre de livre. Après, je vois bien que la question qu'il pose, c'est qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va créer des machines qui sont déjà plus intelligentes que nous, mais qui auront plus de morale que nous. Mais je ne trouve pas tellement qu'il y réponde. Moi, je n'ai pas compris la réponse.
Bah, si.
Et ce que j'ai trouvé horrible, c'est il y a une scène géniale. C'est qu'il est amoureux de sa voisine, avec qui il a une histoire, le héros, qui habite juste au-dessus de lui. Et il est habitué à guetter les pas de sa fiancée, il sait la latte qui grince, tout ça. Et un jour, il a laissé Adam, donc l'homme androïde, chez sa fiancée. Et là, il va les entendre, il va entendre les pas d'Adam qui va jusqu'au lit, il va les entendre coucher ensemble. C'est horrible. Voilà, je ne sais pas quoi en dire d'autre.
Arnaud.
C'est un chef-d'œuvre absolu. C'est vraiment le Brexit réussi à la littérature anglaise, c'est évident. Jonathan Coe nous a fait un très bon livre.
Oh ben vous l'avez démoli
récemment.
Tu dis ça maintenant ?
Non, pas du tout. Et là, Ian McEwan, il est au sommet. On est dans les grands chefs-d'œuvre de la science-fiction anglaise qui a commencé justement.
Pas de la science-fiction.
Ah,
c'est pas de la science-fiction au sens strict.
C'est de la science-fiction.
De l'uchronie.
Génial,
puisque
il a une idée de génie, c'est de mettre la science-fiction dans le passé. Voilà, en 1982, mais un 1982 qui n'a pas été celui qui a réellement existé. L'idée d'imaginer un nouvel album des Beatles, mais franchement, c'est une idée magnifique, de très grands romanciers, là, pour le coup. Et quand vous dites que c'est trop long, je n'en reviens pas, moi. Je pouvais en lire 200 pages de plus. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec la théorie du roman élulien, parce que précisément, on sait bien que ces robots, ils sont là, ils sont quasiment prêts. Un robot a battu le meilleur joueur de Go. Donc là, on a su qu'il s'était passé quelque chose, qui d'ailleurs est raconté très rapidement, de manière très didactique, très pédagogique, dans la technologie donne des grands livres. La clé USB de Jean-Philippe Toussaint est un chef-d'œuvre à mon sens. Et là, c'en est un autre. Et pourquoi c'en est un autre? C'est parce que finalement, Ian McEwan, dans ce roman extrêmement drôle, il y a des idées. Bon, Georges Marchais, président de la République, là, j'ai éclaté de rire. On apprend au passage, mais c'est des petits détails que John Kennedy n'est pas mort à Dallas. Il a juste été blessé sans que ça soit réellement développé. C'est tout dans ces détails là qui fait vraiment le charme très british du livre. C'est que il y a quand même là, un propos que j'ai compris, hein, pour le coup, il me semble bien avoir compris, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle, car finalement, la bêtise humaine est tellement grande que l'intelligence artificielle ne peut rien contre elle. C'est ça, c'est que les robots sont tellement intelligents que quand ils voient, en fait, ce à quoi nous croyons, l'amour, la culture, tout ça n'a aucun sens pour eux, ils finissent par se suicider. Et donc, l'homme n'est pas en train de cavaler derrière les machines, c'est toujours les machines qui cavale derrière cette espèce de
furieux
être humain.
Je vous interromps. Je vous interromps.
En tout cas, juste.
Est-ce que vous voulez qu'on évoque encore trois livres ou pas?
Oui.
Oh non, les autres.
Alors, c'est donc Une machine comme moi, c'est chez Gallimard et c'est Ian McEwan. Les services compétents de Yegor Gran, c'est chez POL. Gran, l'auteur, je le rappelle, de Jeanne d'Arc fait tic-tac. J'adore ce titre. De L'écologie en bas de chez moi. Ancien chroniqueur à Charlie Hebdo, et qui est né en 1964 à Moscou. Il est le fils de l'écrivain russe Andrei Sinyavsky et de Maria Rozanova. C'est à ce père, qu'il n'appelle pas papa pour faire plaisir à Olivia comme Régis Geoffrey que Yegor Gran consacre donc son roman à ce père, donc, qui narguait l'URSS post-stalinienne de Khrouchtchev et de Brejnev, à ce père qui se moquait du régime soviétique dans des livres très satiriques publiés en Occident sous le pseudonyme de Abraham Terts, qui lui valurent quand même d'être condamné à 7 années de goulag entre 66 et 72. Il a, je le rappelle, émigré en France en 73. Bref, Yegor Gran raconte l'affaire Sinyavsky, mais du point de vue des services compétents, c'est-à-dire du KGB, pour en tirer un thriller historique où tout est vrai, alors là, à 100%, comme l'Alsacienne dont parlait Olivia, avec évidemment ce sens de la satire dont Yegor Gran a hérité. Et je rappelle aussi qu'il a reçu le Grand Prix de l'humour noir, c'était pour ONG, et prix qu'il aurait, selon moi, mérité aussi pour ce livre. En vous demandant rapidement ce que vous en pensez, on va commencer avec Arnaud.
Le livre, d'abord, raconte la vie quotidienne, finalement, dans cette période qui commence à être un peu dégel, puisqu'il y a, on apprend, moi j'ai appris qu'il y avait eu une exposition américaine à Moscou, qui est un grand moment. C'est Nixon, qui à l'époque n'est pas encore président des États-Unis, mais seulement vice-président, qui va se déplace à Moscou. Il est reçu par Nikita Khrouchtchev, et donc là, le capitalisme montre tout ce qu'il fabrique, c'est-à-dire on fait la queue devant le stand de Pepsi-Cola, on découvre Nikita Khrouchtchev découvre qu'il y a des presses agrumes et il a cette phrase formidable. Il dit à Nixon, mais à quoi bon inventer une machine pour presser des citrons quand on peut le faire avec ses doigts? Et là, franchement, toute la problématique entre communisme et capitalisme est résumée en une seule phrase. Effectivement, voilà, c'est une question. Et j'ai appris qu'ils avaient des disques de Miles Davis. Ils fabriquaient des disques de Miles Davis en utilisant le rhodoïde des radioscopies des poumons ou des vertèbres, etc., des colonnes vertébrales ou des jambes. Avec ce plastique-là, ils arrivaient à fabriquer des vinyles et à reproduire des disques en cachette, évidemment, en pirate de Miles Davis. C'est un beau livre sur ce qu'est la littérature sous une dictature, la littérature
sur, et les arts en général. Quand même sur ce qu'a été Sinyavsky quand même aussi.
Oui, bien sûr, mais...
Il n'y a pas que du presse-agrumes dans le livre, il y a aussi
Mais la manière dont, malheureusement, j'ai envie de dire, la manière dont Yegor Gran a construit son livre, en donnant, finalement, en mettant le KGBiste comme le personnage principal, on attend, finalement, toujours le retour de ses parents, parce que c'est eux qui sont extrêmement vivants, sympathiques. C'est le moment où Yegor Gran écrit, à mon avis, le mieux, le plus... Il est émouvant, là. Sinon, il est trop satirique, justement. Je trouve que il y a un problème dans ce livre, c'est un problème entre la satire et l'émotion, parce que c'est KGBiste quand même de son père, de ses parents, de son histoire. Il va naître à ce moment-là. Et il y a quelque chose là de la beauté de cette histoire qui est un peu perdue sous la satire.
Oui, mais c'est plus osé que de faire un livre lacrymal ou nostalgique, Jean-Claude.
Ah mais c'est un livre follement original. Dans ta présentation, tu disais 7 ans de goulag. Rien que cette phrase. 7 ans de goulag. Dans sa propre famille, son père, et faire un livre pareil, tellement original, tellement marrant.
C'est plus osé que s'il avait fait un portrait en pied.
Moi, je suis totalement admiratif. Je trouve que c'est un prodige littéraire d'arriver à cette distanciation à la fois héroïque de la part de ses parents. Le personnage de la mère est absolument extraordinaire dans la confrontation avec les inspecteurs du KGB, mais le père aussi, évidemment. Et c'est autant héroïque que comique, et arriver à cette distance-là, avec cet humour en permanence qui s'adresse évidemment au KGB, mais aussi à la façon dont ses parents résistent.
Alors qu'il part d'une tragédie, hein.
Et oui, absolument. Mais 7 ans de goulag, vous avez tout dit, je veux dire, qu'est-ce qu'on, parce que, en plus, ce qui est absolument extraordinaire, son père va partir 7 ans au goulag, et il fait l'économie dans son livre de nous dire, alors que son père est un héros magnifique tout au long du livre, puisqu'il berne les services compétents quand même pendant 6 ans, les types arrivent pas à mettre la main dessus. Il fait l'économie de nous dire, à la fin, il nous dit donc son père prend 7 ans de goulag, mais il fait l'économie de nous dire dans quel état va revenir son père, et son père va revenir sacrément détruit physiquement, pas intellectuellement. Il fait même cette économie-là. Et on est tout le temps dans du drôlatique.
Et encore une fois, souvenez-vous de tous les livres précédents de Gram, il a toujours pratiqué.
Oui, mais alors là, on l'attendait pas. Moi, je veux dire, je suis tombé de ma chaise.
Oui, c'est sur Sinyavsky, c'est sur son père.
Voilà. Et je suis tombé de ma chaise quand j'ai découvert d'abord qu'il était le fils de Sinyavsky, mais surtout la façon dont il appliquait son humour qu'on connaissait dans ses autres livres pour une histoire qui est quand même un drame familial, quand même, qui était un drame de son enfance.
En même temps, on voit bien qu'il a hérité de l'humour de son père.
Absolument.
Oui, il a quand même inventé le réalisme fantastique sous le régime du réalisme socialiste.
Mais moi, je suis
Olivia.
totalement emballé par ce
film. Il a dû hériter aussi l'humour et l'esprit de sa mère, parce que la première scène est extraordinaire. Ouais. Il dit de sa mère, elle a les yeux rieurs. Moi, j'ai l'impression que Yegor Gran, tous ses livres, ils sont écrits les yeux rieurs. La première scène, c'est cette femme avec Yegor Gran qui a 9 mois. Et les
Maria Rosanova, je rappelle.
Les services compétents arrivent pour dire qu'ils ont arrêté son mari. Et la première chose qu'elle dit, c'est qu'elle dit « Ah bah écoutez, je suis bien content, ça fait 3 heures que je l'attends. Je me disais qu'il était chez une autre femme. » Et là, tout de suite, elle interpelle l'agent en disant « Vous trompez pas votre femme, est-ce que vous voyez une autre femme ?» Et elle va réussir, par une espèce de discours, à les décontenancer et à faire en sorte qu'ils ne voient pas ce qu'ils ont sous les yeux, c'est-à-dire une cache. Elle leur donne le bébé dans les bras, les agents ne savent absolument pas quoi faire de l'enfant. Elle leur dit « Mais vous avez oublié de fouiller le berceau », elle leur redonne le bébé. La première scène, je trouvais extraordinaire, avec une phrase après qui vous écorche le cœur. Le bébé n'a pas moufté pendant l'après-midi entière qui a duré la fouille. Et après, la mère dit que le bébé a hurlé comme jamais il n'avait hurlé dans sa vie. Après, c'est une sorte de voyage en Absurdistan, parce que tout est absurde de ce qu'on voit.
Absurdistan, ce sera le livre de l'auteur.
Mais c'est vraiment ça.
On parlera juste après.
On construit des maisons tellement vite pour avoir des appartements communautaires et tellement mal que, par exemple, on ne peut pas monter au premier étage avec l'escalier qui ne conduit pas au premier étage. Et tout est comme ça. Il y a évidemment cette histoire de jazz. Et on a l'impression que c'est un pays qui est démangé par le jazz, par la littérature, par l'Ouest. Et puis qui est contraint par ses services compétents. Après, parfois, on a l'impression qu'on lit un livre de Jean Echenoz, tellement ils sont aussi des
Alors,
des
ce sont les services compétents que Patricia va lire, j'espère. Elle n'a pas eu le temps.
J'ai lu les 30 premières pages que tu dis du début, c'est absolument génial. Dès qu'ils ont le dos tourné, elle va dans la bibliothèque, elle pousse la bibliothèque et derrière,
et ben, ce soir, tous les après, tu vas finir de lire parce que ça vaut vraiment le coup. Ce sont les services compétents, c'est chez POL et c'est Yegor Gran. Allez, Lek Success, traduit aux éditions de L'Olivier par Stéphane Rock, le nouveau roman de Gary Steingart, américain natif de Saint-Pétersbourg, à qui on doit justement Absurdistan, mais aussi Traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes Russes. Et Mémoire d'un bon à rien, le héros s'appelle Barry Cohen, il est new-yorkais, milliardaire, 43 ans, à la tête d'un fonds spéculatif de 2,5 milliards de dollars. Il est à la fois menacé d'une enquête de la commission boursière et déboussolé par la découverte de l'autisme de son fils. Il décide alors de quitter sa femme, qui se réfugie d'ailleurs dans les bras d'un écrivain, et de prendre la route...
Pas tout de suite.
Je résume. Et de prendre la route pour le Nouveau-Mexique. Sinon, avec vous, on en est là jusqu'à 11h du soir. C'est là qu'habite son premier amour, donc au Nouveau-Mexique, avec qui il espère refaire sa vie. L'occasion surtout pour Steingart de traverser les États-Unis d'est en ouest et de découvrir à la veille de l'élection de Trump le monde des marginaux, des paumés, des déclassés. Alors, à propos de ce livre qu'il a fait, dit-il, hurler de rire, Richard Ford a écrit que Steingart entendait l'Amérique à la perfection. Est-ce que c'est votre avis, Patricia ?
Moi, j'ai adoré ce livre. D'abord, j'ai appris qu'un bloc de crack, ça ressemble à un morceau de parmesan. Alors moi qui mange...
Tu ne le savais pas.
Non, je ne savais pas.
Je savais pas.
J'ai vu du parmesan, mais jamais du crack.
Oui, alors, c'est ça.
Non, je ne le savais pas. Oh. Non, je trouve que c'est un roman. Non, mais je ne mens pas.
T'as jamais confondu, t'es sûr ?
Non, ou alors vraiment, c'est sans le faire exprès.
Manger des pâtes chez elle au parmesan, je peux dire que la main, t'es en forme, hein.
C'est un roman d'une grande simplicité, qui a une volonté de limpidité, une facilité d'écriture en apparence, qui fait que ça rend la lecture absolument jouissive. Il y a des rythmes très différents, parce que celui de Barry est rapide, il y a plein de soubresauts, etc. Alors que celui de Sima, même si elle a sa femme, même si elle a un amant, à un moment donné, ça met un peu de piment, avec son enfant qui est autiste, enfin, il y a un rythme là qui est beaucoup plus lent. La littérature est tout le temps présente, parce que Barry, il est banquier, mais il aurait voulu, c'est un écrivain raté, j'en sais rien, mais enfin, il aurait voulu être banquier. Et puis, je trouve que la façon, toutes les scènes avec qui regroupent ces gens de Manhattan qui vivent, mais complètement hors sol, c'est sidérant, c'est hilarant, c'est absolument hallucinant. Il y a des soirées qui sont incroyables. Et le bus, là aussi, le bus qu'il prend, où il va s'immerger avec des gens pauvres, qui ont même intériorisé leur pauvreté et qui laissent les autres leur parler mal, parce que le chauffeur du bus, il leur parle très mal, il leur intime des ordres, etc. C'est, j'ai trouvé ça absolument... Je vois que ton geste...
Oui, parce que je crois qu'on évoque un dernier livre après, ouais, on n'aura pas le temps. Jean-Claude, c'est un peu un roman de routier, en gros.
Ah, mais totalement. Mais d'une certaine façon, oui. Je ne sais pas ce que les auditeurs peuvent comprendre de tes saillies perpétuelles là-dessus, mais oui, c'est évidemment...
Ça roule, je veux dire.
Ah, mais non seulement ça roule, et ça tient la route.
Ça tient la route.
Ça tient la route. Et c'est un vrai miroir promené sur l'Amérique, ce bus. Il est, d'abord, la couverture est sublime, mais on ne va pas parler de la couverture. Non, ça, c'est un livre sensationnel parce qu'il est sans arrêt.
La couverture, le Greyhound, c'est ça?
C'est ce que je viens de dire.
Tout je vous rappelle qu'on est à la radio.
Plus, on est à la radio,
enfants,
c'est ça.
On est à la radio.
Non, ce qui est formidable, c'est qu'il met sans arrêt en balance ce monde, justement, du bus, qui est vraiment un aspirateur à pauvreté, avec le monde des New-Yorkais richissimes, des fonds spéculatifs, et surtout qui décrit New York comme une sorte d'île détachée de l'Amérique, et que la vraie Amérique est ce qu'on voit à travers ce bus, et c'est l'Amérique qui monte dans ce bus. L'intérêt aussi de ce livre, c'est d'abord, c'est la puissance et le souffle des grands romans américains. On l'a là-dedans, et c'est aussi le roman du symptôme Trump. C'est-à-dire, c'est vraiment un roman qui permet de comprendre comment un pays comme celui-là, aussi grand, aussi large, aussi...
Même s'il l'a écrit avant.
Oui,
avant,
hein. Mais c'est aussi ça. Mais surtout, allez, la qualité et la puissance romanesque de ce livre.
Olivia et Arnaud, rapidement, Olivia.
Moi, j'adore. C'est un roman russe-américain. C'est très, très
un
drôle.
Un roman russe-américain.
Oui, c'est un roman russe-américain. C'est très drôle, très désespéré. Très, très drôle. Hein. Comme on est à la radio, je peux dire aussi que j'adore la tête de cet auteur. Oui. Autant que la couverture. Oui. Allez regarder, il a une petite tête. Vraiment...
Une petite tête, enfin, n'exagérons pas.
Petite tête charmante. Et drôle. Il a lui aussi le sens de la scène. Le moment où elle va découvrir que son fils est autiste, c'est à Venise devant un tableau d'une vierge avec son enfant et le bébé cherche le regard de sa mère et là elle va réaliser que son enfant n'a jamais cherché son regard. Il y a des choses qui aussi vraiment vous scie. Moi je trouve que le mec est génial.
Arnaud?
450 pages là, ouais. Là pour le coup j'ai trouvé ça un peu long, je suis allé jusqu'à la fin parce que je voulais savoir quand même un petit peu comprendre ce que ça racontait là encore. Donc c'est l'histoire d'un type milliardaire qui collectionne les montres de luxe, qui a un enfant autiste, malheureusement vous savez l'argent ne peut rien contre l'autisme. Donc il prend un Greyhound, il va traverser les États-Unis, il va coucher avec une noire, il va sucer la queue d'un mec, boomer. Ah mais c'est vraiment ça. Ok, boomer. Le type fait des expériences extrêmes. Il est un peu dans la tête de Kerouac. Il a le crack, mais il va pas le fumer, hein, jamais. Il va le fétichiser jusqu'à la fin. Et à la fin, donc je peux vous dire quand même, parce que personne n'ira jusqu'au bout.
Oh.
À la fin, donc, ce milliardaire qui collectionne les montres de luxe va finir par apprendre à les réparer. Eh ben, 450 pages pour en arriver là.
T'es d'une mauvaise foi, parce qu'on peut raconter McEwan comme ça.
Hein. Gary Steingart,
c'est l'histoire
à l'Olivier.
Qui achète un robot.
Et malheureusement, rapidement, un livre moins drôle, il faut dire la vérité, c'est La mère morte de Blandine de Cône chez Stock. Blandine de Cône qui avait publié il y a 2 ans le journal d'Irlande posthume de sa mère, Benoît de Groult. C'était une ode à la pêche en haute mer et à la sexualité des vermeils. Bref, ce journal d'Irlande se terminait en 2003. Benoît de Groult avait 83 ans. La suite, on la trouve dans ce livre où Blandine de Cône accompagne sa mère qui est frappée par la maladie d'Alzheimer jusqu'au 20 juin 2016 où c'est une information qu'elle nous livre comme ça, mine de rien, faisant fi de la loi française. Un médecin belge arriva hier dans le Var et fit à la mère de 96 ans, à Benoît de Groult, donc l'intraveineuse létale. Et puis le livre de Blandine de Cône révèle aussi un autre drame. 3 mois plus tôt, le 1er avril 2016, sa fille unique, Violette, 36 ans, est morte dans un accident de voiture. Donc c'est le double sens de la mère morte, à la fois Benoît de Groult et à la fois Blandine de Cône, morte de chagrin. Olivia, tu l'avais déjà conseillé à la fin d'Un masque et la plume. Tu vas pas te dédire, si j'ose dire.
Ah non, moi je trouve que c'est un livre magnifique et d'une honnêteté folle. C'est un livre qui se moque de la bien-pensance, de la loi, des convenances. C'est un livre qui ressemble beaucoup à Benoît de Groult. Ce que je trouve très beau, c'est que Benoît de Groult a raconté, au travers de ses journaux, de ses écrits, de ses romans, chaque chapitre de sa vie, sans aucun filtre. Eh bien, j'ai l'impression que le dernier chapitre de sa vie, c'est comme si sa fille, Blandine, l'écrivait à sa place. Et elle raconte la fin de vie sans fioriture, parce que la fin de la vie, ça fait aussi partie de la vie. Et je trouve que c'est très, à la fois drôle, pathétique, tragique, cette femme qui perd la tête, et en même temps qu'il y a une espèce de soif de vie incroyable et qu'elle va communiquer à sa fille. Et puis, le livre se transforme avec la mort de Violette. C'est
pardon, Olivia, Patricia, je te demande de
très beau.
Moi, je suis tout à fait d'accord. Il y a deux façons d'aborder la vie. Soit on la trouve indécente et parce qu'elle inflige des maladies abominables, parce qu'elle inflige des morts insupportables. Soit on en épouse les formes. On ferme sa gueule, j'ai envie de dire, mais enfin bon, on pleure en silence. Ou alors on écrit, et on écrit parce que comme ça, on peut hurler sans bruit. Et là, elle reprend Duras. Elle n'idéalise pas du tout sa mère. C'est aussi la statue du commandeur. Enfin, elle dit des très très belles choses qui n'empêchent absolument pas la tendresse. Et quant à la sidération, effectivement, de perdre un enfant, elle dit on n'est pas équipé pour ça, et pourtant je l'ai fait. Elle veut parler de l'enterrement de sa fille.
Arnaud ?
Moi, ce que j'aime bien avec les livres sur Alzheimer, c'est qu'on les oublie très vite.
Oh non, attends, ça c'est facile.
Là, j'ai vite oublié Delphine
ça,
de Vigan.
C'est vraiment facile.
J'ai oublié. Le seul que j'ai un peu retenu, c'est d'ailleurs parce que c'est pas un livre sur Alzheimer, c'est le premier chapitre d'un livre magnifique de Benoît Dupteurt qui s'appelle Livre pour adultes, où il raconte justement l'Alzheimer de sa mère. C'est paru en folio, je vous le conseille.
Jean-Claude ?
Moi, je respectais infiniment et évidemment la souffrance de cette fille et de cette mère. Évidemment, l'accident de sa fille est absolument épouvantable et elle y consacre des pages intéressantes. Ce qui m'a beaucoup troublé d'ailleurs, c'est les dialogues avec l'au-delà, c'est-à-dire comment Violette communique avec les vivants, et ça m'a beaucoup beaucoup troublé, je dois reconnaître. En revanche, j'ai été très très dérangé par le style de ce livre. Je n'ai pas du tout aimé le style de ce livre. Je n'aime pas la façon dont c'est écrit. Je trouve que c'est d'une grande banalité et que sur un sujet comme celui-là, double sujet, euthanasie, mort de sa fille, j'aurais aimé un peu plus de tenue. Et c'est un récit qui n'a pas un grand relief littéraire.
C'est
un livre qui n'a pas de grand relief littéraire.
Si
on veut parler de littérature,
comment veux-tu raconter la mort de ta mère et de ta fille en 3 mois autrement qu'avec une simplicité extrême?
Non, mais c'est pas la première fois que quelqu'un écrit là-dessus. Attends, c'est pas d'un seul coup quelqu'un qui nous explique quelque chose qui n'est jamais arrivé. Je dis juste que ce livre n'a pas un grand relief littéraire et que ça m'a considérablement gêné. Voilà, c'est tout.
Mais je dis aussi que la littérature, elle est du côté de ce qui est vrai, de ce qui est dit de manière comme ça brutale. Et que ça aussi, c'est de la littérature.
C'est ton point de vue, ce n'est pas le mien.
Voilà. Mais c'est le mien.
Sur un sujet comme celui-là, non. Voilà.
La mère morte de Blandine de Cône, ça, c'est un livre qui est apparu chez Stock. Voilà, le temps. Oui, il nous reste le temps de faire des conseils. Je ne pensais pas qu'on aurait le temps, mais on l'a. Et on va commencer avec Olivia.
Eh bien, comme beaucoup d'auditeurs de France Inter, j'ai entendu Guillaume Gallienne lire les poèmes de sa cousine Alicia Gallienne, publiés chez Gallimard, « L'autre moitié du songe m'appartient ». J'ai trouvé ça magnifique. Et
il faut rappeler quand même que...
Cela m'a donné envie d'aller voir le livre.
Qu'elle est morte très jeune.
C'est donc l'histoire d'Alicia Gallienne. Il y a une préface de Sophie Nolo qui est sublime, qui raconte le destin de cette jeune femme morte à 20 ans et qui, pendant les 2 dernières années de sa vie, a écrit des poèmes, un roman dont une sélection est faite. C'est vraiment d'une écriture très étonnante. C'est un livre sur le fil entre une femme qui a l'extrême lucidité de ce qu'il va lui arriver et en même temps une sorte de goût féroce pour la vie inouïe. C'est un livre peut-être comme noir... Le noir de Soulages, c'est un livre noir mais qui réfléchit la lumière et vraiment d'une écriture. On se demande ce que cette écrivaine serait devenue tellement elle était déjà exceptionnelle à 20 ans. Ça s'appelle « L'autre moitié du songe m'appartient ». Il y a une postface très belle d'ailleurs de Guillaume Gallienne et c'est chez Gallienne.
Et qui a fait effectivement une lecture sur notre antenne avant de clore son
émission.
Son émission de lecture. Le conseil d'Arnaud.
C'est le nouveau livre dont on va beaucoup parler, le nouveau livre de Marcela Yacoub qui s'appelle « En couple avec moi-même » chez Léo Cher.
En couple avec moi-même ?
Et qui est un livre absolument drôlatique, mais vraiment, moi qui m'a fait hurler de rire.
Non mais il faut expliquer que... Olivia fait la grimace pendant que tu parles.
Oui, elle fait la grimace.
C'est quoi Marcella Yacoub.
Marcella Yacoub a vécu, s'est mariée, a été mariée pendant 15 ans. Elle a divorcé parce que son mari l'a trompée, raconte-t-elle. Et donc, elle a essayé évidemment après de se recaser. Elle explique comment, pourquoi elle n'a pas réussi, parce que elle était dans la quarantaine, elle n'avait plus de valeur sur le marché marital. Elle a essayé ensuite de.
On va encore avoir du courrier.
Des amants.
Je raconte le livre
de Marcella Yacoub. Et finalement, après une longue période de dépression, elle a
découvert... Suite à son histoire avec DSK qui lui avait mangé l'oreille, tu oublies ?
Longue période de dépression, elle n'en parle pas de DSK, longue période de dépression, elle découvre que finalement, ce qu'elle aime, c'est vivre en couple avec elle-même. Que la personne qu'elle aime, c'est elle-même.
Ah, tout ça pour
et
ça.
Et c'est extrêmement drôle, on dirait du La Bruyère qui aurait lu Houellebecq, ou Houellebecq qui aurait lu du La Bruyère. Je vous assure, j'étais mort de rire tout le temps, parce que je ne sais pas si c'est écrit au premier degré ou pas.
Le bout de craque était dans la loge.
Se passe dans la langue. Si vous lisez les chroniques de Marcella Yacoub dans Libération, vous connaissez cette espèce de paradoxe mais moraliste qu'elle peut avoir, et je trouve ce livre absolument.
Alors tu rappelles
formidable.
Le titre, c'est
En couple avec moi-même de Marcella Yacoub chez Léo Cher.
Mon conseil, c'est un premier roman chez Gallimard signé Mélisse Bessery qui s'appelle Le Tiers-Temps, et Mélisse Bessery raconte les derniers jours de Samuel Beckett. Lorsqu'en 89, il avait 83 ans, il était lui atteint de la maladie de Parkinson, il a été admis au Tiers-Temps, qui est une maison de retraite située à Paris, dans le 14e arrondissement, et où Beckett va devenir, c'est ce que raconte formidablement, je trouve, cette jeune romancière, devient un de ses propres personnages, c'est-à-dire que Beckett est beckettien au Tiers-Temps. On a vraiment l'impression qu'il attend Godot. J'ai trouvé ça souvent drôle et évidemment très émouvant. Le Tiers-Temps, c'est chez Gallimard et c'est signé Mélisse Bessery.
Oui, j'ai adoré aussi.
Ah, t'es d'accord?
Ah ouais.
Le conseil de Patricia.
De Frédéric Vitou, qui a beaucoup écrit sur Céline, sur l'île Saint-Louis, qui est la matrice
polie. Et sur les chats.
Et sur les chats, dictionnaire amoureux des chats. Il dort toujours pratiquement dans le lit de ses parents. Il n'a pas quitté l'appartement.
Tu parles de Frédéric Vitou?
De Frédéric Vitou.
Oui.
Et dans beaucoup de ses livres, une ombre plane, c'est celle de son père, qui a été collaborateur pendant la guerre, et qui a été mis en prison à Clairvaux. Et ce père, qui aurait pu faire honte à ses enfants, qui leur a d'ailleurs fait honte à un moment donné, a aussi été un père aimé. Et c'est là toute l'ombre tutélaire pesante, pour ne pas dire écrasante, un poids qui dure toute la vie, et dont je trouve Frédéric Vitou parle avec... moi, c'est un livre qui m'a énormément ému. Ça s'appelle « Longtemps, j'ai donné raison à Ginger Rogers », parce qu'il adore
le
cinéma. Parce que c'est la phrase d'un film qu'elle dit dans la cinquième...
C'est chez Grasset.
C'est chez Grasset.
Le conseil de Jean-Claude, peut-être un livre de route, un livre de...
Oui, mais comme la vie. Comme la vie. La vie, c'est une route, quoi. Voilà. Non, mais... Mais puisque tu viens me chercher sur ce thème, alors allons-y. Le livre que je recommande, c'est L'homme qui n'est jamais mort, d'Olivier Margot, c'est chez Jean-Claude Lattès. L'homme qui n'est jamais mort, c'est Matthias Sandlars. Matthias Sandlars était le plus grand footballeur des années 1930, footballeur autrichien, qui venait du sous-prolétariat et qui a été un footballeur absolument exceptionnel. Les artistes de Vienne, dans les années 30, le considéraient comme l'un des leurs. C'est-à-dire le considérer comme un artiste. Il arrivait du sous-prolétariat, on l'appelait le Mozart du football, et Olivier Margot fait une très très belle évocation historique, parce que ce footballeur-là ne se contentait pas de jouer au foot, il s'est affronté, véritablement opposé au nazisme, jusqu'à y perdre la vie. Il considérait le football comme une sorte de catégorie esthétique. Tous les 23 janvier, qui sont le jour de sa mort, il y a des centaines de Viennois qui viennent sur sa tombe. Comme dit Olivier Margot, c'était un astre avant le désastre, et je trouve que c'est un très très beau livre.
En tout cas, ce sont des conseils très variés, c'est moins qu'on puisse dire, et qu'on puisse nous reconnaître. Merci beaucoup Patricia Martin, Olivia de Lamberterie, Jean-Claude Raspienjas et Arnaud Vivian pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Et ce soir au Théâtre de l'Alliance Française, à la technique, et je les remercie, il y avait Marie Le Peintre, Nadège Antonini et Eric Carrère, pour une réalisation signée Xavier Pestugia. Notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, eh bien, ce sera le jeudi 12 mars, dans ce même théâtre de l'Alliance Française, 101 boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, pour deux émissions, l'une consacrée au théâtre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parlera de films. Et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.